Vous êtes à l'écoute d'une émission chrétienne intitulée « Chemin de vérité ». Vous êtes invité à suivre chaque semaine avec nous des études bibliques de divers sujets d'importance spirituelle. Aujourd'hui, nous verrons la cinquième leçon d'une série sur les conversions dans le livre des Actes. En Actes 2, 43, nous apprenons que dans les jours et les mois qui ont suivi le jour de la Pentecôte et la venue du Saint-Esprit, les apôtres ont fait de nombreux miracles. Le texte dit que la crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de miracles par les apôtres. Le verset 47 du même chapitre nous apprend que pendant cette même période, beaucoup d'autres personnes sont devenues chrétiennes, en plus des 3000 personnes qui se sont converties le jour de la Pentecôte. Ce verset nous dit « Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » En Actes 3 et 4, nous avons le récit d'un miracle précis et des conversions qui ont suivi la prédication à cette occasion-là. Pierre et Jean montaient ensemble au temple, à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. » Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout, et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Cette histoire biblique nous montre la différence entre un miracle et une simple prière exaucée par Dieu. Nous voyons premièrement que la guérison de cet homme ne fut pas progressive. Il n'a pas fallu plusieurs séances de prière prolongées. L'homme guéri fut tout de suite capable non seulement de marcher, mais de sauter. Quand nous prions pour un malade, Dieu peut lui donner la santé progressivement. Il peut œuvrer à travers des processus naturels dans le corps et produire la guérison. Il peut permettre à des médicaments traditionnels ou modernes de promouvoir le rétablissement du malade. Quand nous sommes guéris, la main de Dieu y est pour quelque chose, et nous devons le remercier. Mais il ne s'agit pas là d'un miracle ou d'un prodige. Deuxièmement, nous constatons que Pierre savait d'avance que l'homme boiteux serait guéri. Dieu lui avait donné le don de guérison, de sorte qu'il a pu dire « Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Tout enfant fidèle de Dieu a la possibilité de présenter ses requêtes à Dieu et de savoir que Dieu l'écoute. Nous pouvons par exemple demander à Dieu de nous guérir ou de guérir ceux que nous aimons quand ils sont malades. Dieu est tout-puissant, et il peut enlever n'importe quelle maladie. Mais nous prions comme Jésus, qui dit en Luc 22, verset 42, « Néanmoins, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » N'ayant pas le don que Pierre avait, je ne pourrais pas dire, « Ce que j'ai, je te le donne, lève-toi et marche. » Je dirais plutôt, « Mon Père Céleste est capable de tout. Je lui demanderai de te guérir de la manière qu'il décide et s'il le veut. » Les soi-disant miracles de nos jours ont parfois l'air suspects. Souvent, le mal n'est pas visible. Si la personne ne dit pas qu'elle a mal quelque part, tu ne te rends pas compte qu'elle n'est pas en bonne santé. Évidemment, dans un tel cas, la guérison n'est pas visible non plus. Souvent, la personne guérie n'est pas connue des témoins. Qui sait si la personne était vraiment aveugle ou boiteuse ou atteinte d'une maladie grave? Dans le récit que nous avons lu, tout le monde connaissait l'état du mendiant boiteux que l'on voyait depuis des années à l'entrée du temple. Les chefs du peuple n'étaient pas contents du message que les apôtres ont prêché par la suite, mais ils ne pouvaient nier le miracle. Ils disaient entre eux, « Que ferons-nous à ces hommes ? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux, et nous ne pouvons pas le nier. » Acte 4, verset 16. Ce miracle était important et impressionnant, mais il ne sauva personne de ses péchés. Son vrai rôle était d'attirer l'attention de la foule et d'attester la vérité de la parole que les apôtres annonceraient de la part de Dieu. La chose la plus importante n'était ni le miracle ni les apôtres, mais la bonne nouvelle de Jésus. C'est ce qui devient évident dans la suite du récit. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux, au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâchât. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison, en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés. » Acte 3, versets 11 à 19. Pierre ne voulait pas de gloire pour lui-même. Il a cherché à tourner l'attention de ses auditeurs à Jésus. Tout comme il a fait dans son sermon le jour de la Pentecôte, Pierre a parlé des souffrances et la mort de Jésus, en soulignant que cela avait été prévu par Dieu. Il a aussi insisté sur la résurrection de Jésus, la preuve que Jésus est bien le Christ, le prince de la vie. Pierre a déclaré ensuite deux conditions à remplir pour que vos péchés soient effacés, la repentance et la conversion. La repentance est une décision, un changement d'avis. Dans le contexte du salut de l'homme, c'est un changement d'avis en ce qui concerne le péché. Se convertir signalait se retourner, revenir, se réformer. La signification de « se convertir » est très proche de celle de « se repentir ». La distinction se trouve dans le fait de passer à l'action. La repentance a lieu dans l'esprit de l'homme. La conversion en est le résultat, la mise en application de la décision de changer. Puisqu'un changement de conduite a un commencement, on peut dire qu'une personne se convertit quand elle pose le premier acte de sa nouvelle vie d'obéissance à Dieu. Cet acte est le baptême. Ainsi donc, quand Pierre dit en acte 3 « Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés », il veut dire la même chose qu'il avait dit en acte 2 verset 38 « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés ». Pierre et Jean étaient encore en train de prêcher au peuple quand ils furent interrompus. Acte 4 verset 1 à 3 nous dit « Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les sadducéens. Mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent la main sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain. Les sadducéens et les autorités du temple, contrairement aux pharisiens et la plupart des juifs, ne croyaient ni à l'âme éternelle ni à la résurrection des morts. Dans les premiers jours du christianisme, ce sont eux qui se sont opposés le plus fortement à l'évangile. Ils ont donc mis Pierre et Jean en prison. Mais il y a eu des résultats positifs de la prédication aussi. Acte 4, verset 4 dit « Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5 000. Les auditeurs de Pierre et Jean avaient suffisamment entendu pour accepter le message, et beaucoup ont cru pour être sauvés. Le mot croire n'est pas toujours employé de la même manière. Parfois, il signifie simplement que l'on reconnaît la vérité d'une idée, la réalité d'un fait. Jacques 2,19 l'emploie dans ce sens. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Le mot est employé de cette manière en Jean 12, 42 et 43 aussi. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. La foi dans ce sens n'est pas une foi qui sauve. Il ne suffit pas de reconnaître intellectuellement que Dieu existe ou que Jésus est le Fils de Dieu. Il est possible de croire dans ce sens et être perdu quand même. Dans la Bible, le mot « croire » a plus souvent le sens de conviction et confiance, accompagné d'obéissance. C'est ce genre de foi qui sauve. Ayant reconnu que Jésus est le Fils de Dieu, le pécheur doit mettre sa confiance en lui, prendre la résolution d'abandonner ses péchés, confesser publiquement sa foi en Jésus et se faire baptiser pour le pardon de ses péchés. Selon Hébreux 5, verset 9, Jésus est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Il sauve ceux qui ont une foi active et obéissante. Il ne sauve pas ceux qui croient sans obéir. Vous a-t-il sauvé?
Sois mon maître, sauve ton Jésus, prince de la paix, car toi seul saurais me rendre le cœur tranquille à jamais. Prends mon cœur, ô Dieu, dirige ma vie en tous ses aspects. Fais qu'à sa place j'érige un saint homme.